Prête, bonjour.
Bonjour Gislain, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, les titres. Recrudescence de scènes de braquage à Bria, une marche de protestation est élue ce matin dans la ville, correspondance de Jacques Tafogo dans ce journal. Le député de Kagabandoro 2, Jean-Louis Ndama, exige de la MINUSCA le retrait du contingent pakistanais et le démantèlement des barrières des groupes armés. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne connaît une augmentation de 2 à 3% en 2018, selon le FMI. Football Coupe du Monde en Russie. La première demi-finale se joue ce soir à 19h entre la Belgique et la France. Il sera retransmis en intégralité sur Radio Ndikiluka. Insécurité dans la Haute-Kotou, la population a marché pour dénoncer les exactions et violences qu'elles subissent des groupes armés. Nous retrouvons en direct de Bria notre correspondant Jacques Tafogo. Jacques, bonjour.
Bonjour, Fred.
Vous êtes en ce moment à Bria. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas?
Ce matin à Bria, il y avait une marche qui était organisée par la population pour dénoncer les violences et les braquages perpétrés à l'égard des humanitaires. Une centaine de personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont marché depuis le rond-point de l'hôpital jusqu'à la préfecture. Donc, ils ont écrit sur des banderoles « Non au braquage ». Non aux exactions contre les humanitaires et les organismes internationaux. Non également aux violences faites aux femmes. Non aux violences que les groupes armés font pour leur intérêt égoïste qui conduit à des guerres intercommunautaires à Bria. Donc, à la fin de la marche, ils ont remis un mémorandum au préfet intérimaire, Maurice Balikouzou. La présidente des femmes, leader Maïmouna Baroud, a déploré le départ de MSF qui a déjà occasionné la mort de 5 enfants. Depuis vendredi jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de violence durant la marche.
Je vous remercie.
La population de Kagabandoro se dit dépassée de détérioration de la situation sécuritaire.
Le député de Kagabandoro 2, Jean-Louis Ndama, recommande entre autres à la MINUSCA le retrait du contingent pakistanais et son remplacement par un autre, le démantèlement de toutes les barrières illégales des bandes armées sur l'axe Kagabandoro-Bangui. Jean-Louis Ndama, au micro de Bonaventure Ngoba Katikiro.
Puisque la population se plaint depuis toujours du comportement partial des Pakistanais, de la MINUSCA à l'égard des éléments de la SELECA perçus par la population comme les oppresseurs, ces plaintes ont été relayées à plusieurs reprises. Il est grand temps que le gouvernement et la MINUSCA prennent leurs responsabilités et décident soit de faire partir le contingent de la MINUSCA, soit d'ajouter en plus du contingent de la MINUSCA, au cas où on ne peut pas le faire partir, un autre contingent, ce qui permettra qu'il y ait plus d'objectivité dans les actions des forces de la MINUSCA dans Kagabandoro. Il y a aussi la question du démantèlement des barrières illégales installées par les SELECA, que ce soit après la forêt Banga comme à Ngoubata ou bien qu'ils se tiennent à Ndomété ou à quelques kilomètres de Ndomété, c'est pas normal. Il faut absolument, et ça c'est un impératif absolu sur lequel il n'y a pas de négociation, que la MINUSCA prenne ses responsabilités, les oblige à quitter ces barrières-là.
Voilà, c'était le député de Kagabandoro de Jean-Louis Ndama. Le gouvernement et la MINUSCA n'ont pas encore réagi à cette nouvelle revendication.
Polémique autour du démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la cité Christophe et de la tour du Zès dans le premier arrondissement de Bangui.
Le groupe El Alkras aurait déjà acheté ce bien public, ce qui serait à l'origine du blocage. Les Centrafricains s'interrogent sur cette affaire et attendent une réaction des autorités pour sauvegarder l'un des derniers patrimoines de l'État. Igor Deskin-Senapai.
Les faits remontent en 2017 lorsque le gouvernement attribue le chantier de la réhabilitation de la cité Christophe et de la tour Gizès à l'entreprise chinoise SAM. Les clauses du contrat prévoient la réhabilitation par la partie chinoise et l'exploitation dans un délai de 25 ans avant la rétrocession à l'État. Selon nos informations, le groupe El Akras, détenteur lui aussi d'une parcelle sur ce site, aurait acheté les titres fonciers des autres bâtiments entre les mains des anciens locataires. Les documents que Radio Ndikiluka a obtenu copie font savoir que les gouvernements Elidoté, Faustin Archange Touadéra et Mamad Kamoun, premier ministre d'alors, ont pris des décisions en mars 2017, mai 2010 et décembre 2014 pour annuler la vente de ces terrains et déguerpir les occupants. Le document montre aussi la liste de 20 acquéreurs de différents lots sur la cité. Contacté, le patron du groupe El Akras affirme que l'affaire est pendante devant la justice. Il ne souhaite pas se prononcer pour le moment. Nos investigations sont restées vaines au niveau de la justice pour en savoir davantage. Du côté de l'État, Le ministre de l'Urbanisme a relevé qu'il n'y a aucun problème. Il rassure que les dernières dispositions sont en train d'être prises pour le démarrage effectif des travaux par la société chinoise SAM. Certaines sources proches du dossier ont confirmé à Radio de Kiluka que ces bâtiments publics sont déjà bradés au groupe El Akras, mais aussi à certains dignitaires de l'actuel régime. Sur cette affaire, plusieurs centrafricains s'interrogent sur les vieilles pratiques qui refont surface au vu et au su des nouvelles autorités qui prônent la rupture. Un acte de détournement de biens publics regrette un ex-habitant de la cité. Une affaire à suivre.
Une affaire à suivre. Il est 13h06 sur Radio Ndiki Luka.
La ville de Bangui enfin dotée d'un nouvel plan directeur d'aménagement à l'horizon 2040-2050.
Élaboré après 10 jours d'échanges entre les experts nationaux et internationaux, le nouveau projet d'urbanisation de la capitale centrafricaine a été présenté hier au chef du gouvernement et certaines autorités. L'objectif, mettre en place des projets de développement adaptés aux normes internationales. Pierre-André Périssol, président des ateliers Sergi Pontoise de France, un des experts interrogés par Igor Desquin-Senapé.
2 ans qui nous ont permis de monter ici un atelier d'urbanisme, c'est-à-dire de réunir des urbanistes de différentes disciplines, mais qui ont apporté leurs compétences, mais aussi leur expérience, puisqu'ils viennent de 4 continents différents, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Europe, et qu'ils ont apporté également beaucoup de cœur. Donc ils ont travaillé pendant 12 jours, de nuit aussi, pour arriver à répondre à la question qui était demandée, qu'est-ce qui peut être fait dans l'aménagement de cette ville ? Et il y a eu des propositions sur différents plans, notamment si on veut qu'on vive les uns avec les autres. Il y a le centre historique, mais il y a aussi tout le développement qui s'est fait en périphérie. Il y a aussi à valoriser d'autres centralités, à favoriser la mobilité entre les différents quartiers, ces différents centres, et puis à valoriser tous les atouts qui sont très nombreux de cette ville.
Pierre-André Périssol, président des ateliers Sergi Pontoise de France. Ce projet est financé par le Fonds Vicou de l'Union européenne.
La croissance économique de l'Afrique subsahélienne connaît une augmentation.
Selon l'édition 2018 des perspectives économiques régionales, ce chiffre entre 2 et 3%, révélation faite dans un rapport publié ce lundi à Bangui par le Fonds monétaire international. Les détails avec Karine Estelle-Begbe.
Ce document de 5 pages intitulé « Perspectives économiques régionales en Afrique subsahélienne » a été élaboré par le Fonds monétaire international. Il est axé entre autres sur l'évolution macroéconomique de ces pays et la mobilisation des ressources fiscales. Le rapport relève que la mobilisation des recettes reste encore faible dans les pays fragiles. Olivier Bénon, représentant du FMI, présente quelques pistes de solutions pour l'accroissement interne des ressources de l'État.
Ce rapport, c'est un rapport semestriel, tire 3 enseignements. D'abord, c'est une bonne nouvelle, une amélioration de la croissance sur le continent africain. Cette croissance s'améliore, elle reste timide. Un autre enseignement que l'on tire, c'est le besoin dans l'ensemble des pays sur le continent de veiller à la soutenabilité de la dette et pour ce faire, l'importance de mobiliser davantage des recettes intérieures. Et enfin, ce rapport insiste sur l'importance du secteur privé, de l'investissement privé pour asseoir cette croissance et la rendre encore plus inclusive.
Concernant la République centrafricaine, les partenaires ont constaté une faible mobilisation des ressources internes. Olivier Bénon.
L'étude qui a donné lieu en fait à ce rapport semestriel a bien entendu pris en considération la situation de la République centrafricaine. On voit beaucoup d'efforts en vue de mobiliser davantage les recettes en s'intéressant à des pistes, aux orientations qui également apparaissent dans ce rapport, telles que une amélioration de la collecte des impôts de consommation en matière de droits d'assises, mais aussi une réforme fondamentale entreprise depuis 2016 ici.
Ce rapport a été présenté au cadre des institutions financières publiques et privées de la République centrafricaine.
Merci Karine et poursuivons le fil de cette édition.
Vous écoutez Radio Ndeke Luka dans la commune de Haute-Batouri dans la sous-préfecture de Berberati où les deux verbes instruire et soigner n'ont pas le sens dans cette localité.
Environ 10 de villages de cette contrée sont dépourvus de centres de santé d'école et n'ont pas de route accessible aux camions. Correspondance de René Pierre Numbé.
La commune de Haute-Batouri, dont le chef-lieu est Nandebo, est située sur l'axe Carnot, à 30 km de Berberati, au village de Bako. À droite, une piste desserve sur environ 50 km des villages. Là, la scolarisation et les soins de santé modernes sont des 20 mots. Pour y accéder, il faut une moto. Ainsi, des centaines d'enfants ne sont pas scolarisés. En cas d'accouchement ou de maladies graves, les patients sont transportés à bord des motos pour atteindre la grande route. Des fois, les patients crèvent en cours de route. Gaston Bangolo, un des chefs de village de la localité enclavée, lance un pressant appel aux autorités municipales pour la mise en place des écoles, des centres de santé dans les grands villages et le rétablissement des pistes rurales. René Pierre Ndoumbé, Berberati, Radio Ndekeluka.
Nous ouvrons la page des sports avec le football.
Oui, Fred, de football, Coupe du Monde en Russie. La première demi-finale se joue ce soir entre la Belgique et la France.
Le match se joue à 19h, heure d'Afrique centrale. Et il sera retransmis en intégralité sur Radio Ndikiluka. Pour mémoire, ce sera la 74e confrontation entre la France et la Belgique pour un bilan de 30 succès belges, 24 victoires françaises et 19 nuls. La Belgique est l'adversaire que l'équipe de France a le plus affronté dans son histoire.
Retour à Bangui. La Soulique de Koudoukou dans le 3e arrondissement dispose d'un nouveau bureau depuis une semaine.
Il a été mis en place à l'issue d'une assemblée générale. Abdourahmane Ali a été désigné président. Il présente ses priorités.
Ma priorité, présentement, je vais lancer l'activité de Soulique. On a perdu notre activité, ça fait même plus de 4 ans et demi. C'est pour cela que je fais un appel à tous les présidents et tous les capitaines pour la reprise des championnats de Koudoukou.
Et depuis 4 ans, la Soulique de Koudoukou ne fonctionnait pas à cause des événements survenus dans la localité.
Oui, Fred, de football féminin, les Fauves se préparent pour le tournoi de l'UNIFAC qui se déroulera en août prochain. Bangui.
Le coach principal Léopold Ndoua déplore les conditions dans lesquelles les filles s'entraînent au stade Barthélémy Bouganda. Pas de récupération après les séances, ni de frais de transport aller et retour. Les moyens mis à leur disposition par la fédération sont insignifiants. Il appelle à l'aide.
Cyclisme démarrage dans 10 jours de la 8e édition transrégionale camerounaise. 5 athlètes centrafricains poursuivent leur préparation pour y prendre part.
Il s'agit de Lopez Tonyama, Hervé Rodrigue Selenguma, Hervé Jonathan Zabo, Pépin Clotaire Oubongui et Samuel Azouka. La compétition est prévue du 20 juillet au 15 août prochain. Les Fauves vont disputer 13 étapes, soit une distance de 1560 km à l'intérieur du Cameroun. Pour le moment, les sélectionnés sont appelés à maximiser leur préparation pour ce tournoi.
Basket féminin à l'international, la demi-finale retour des play-offs se déroule ce soir à Dakar.
La rencontre se joue à 16h. L'international centrafricaine Abeti Kossi et son équipe Dakar et Université Club vont tenter de se qualifier à la finale devant Dakar Université Club. Fin de cette édition sur Radio Ndikiluka. Merci de l'avoir suivi.